Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her tears or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol, le 12e épisode de la deuxième saison. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Héloïse Cazot. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, je suis très contente d'être là parmi vous toutes.
Ouais, écoute, très contente de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît?
Du coup, je suis militante au NPA Jeunes, plus largement au NPA, le parti de Philippe Poutou, qui est candidat à l'élection présidentielle. Pour l'instant, on est dans la campagne jusqu'au premier tour, quoi.
Et toi, tu fais quoi exactement dans cette campagne, du coup?
Principalement, on organise des comités de soutien à la campagne de Philippe Poutou. Donc, il s'agit surtout d'aller distribuer des tracts pour le NPA Jeunes, les lieux d'études, lycées, universités, faire des collages, populariser les dates de meetings, de rencontres, de réunions publiques, et essayer d'attirer autour de nous le plus de jeunes qui seraient intéressés par des idées anticapitalistes et révolutionnaires.
Et ça fonctionne? Il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par les idées révolutionnaires?
Il y a quand même un peu une petite effervescence autour de Philippe Poutou, quoi, notamment chez les jeunes. Et c'est vrai qu'on a pu constater que nos groupes, en tout cas les comités de soutien, s'étaient bien remplis depuis la rentrée de septembre, parce que c'est depuis septembre qu'on a monté ces comités de soutien. Et c'est vrai qu'on a bien évolué dans le bon sens avec des retours positifs dans les facs, dans les lycées, et les comités fonctionnent très bien.
Ok, écoute, super cool. Bon courage pour tout ça. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Odile Morin. Bonjour Odile.
Oui, bonjour Léa.
Comment vas-tu?
Écoute, ça va bien.
Ravie de t'accueillir.
Je suppose que tu veux que je me présente.
Absolument.
Écoute, je suis une activiste anti-validisme, ce système d'oppression à l'égal du racisme et du sexisme qui discrimine les personnes en situation, les personnes handicapées. J'ai aussi été gilet jaune, victime de violences policières et de répression sur le plan judiciaire dénoncée par Amnesty International. Et je suis aussi depuis juillet 2020, élue municipale et métropolitaine d'opposition, non encartée, à Toulouse, où on a failli, à 4000 voix près, emporter la mairie de Toulouse. Et j'ai été candidate après un plébiscite sur la liste municipaliste Archipel Citoyen.
Voilà. Super, merci beaucoup Odile pour cette présentation et merci d'être là aujourd'hui avec nous pour discuter actualité politique. Et enfin, notre troisième invité, Lucie Fournier. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va pas mal, ma foi.
Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Je suis Lucie Fournier et je suis militante féministe, soutien de Sandrine Rousseau depuis la fin de la campagne de la primaire. Et voilà en gros ce qui peut être utile de savoir là maintenant.
Et intervenante Popol désormais. Et fabuleux. Merci à toutes les trois d'être là. Je vous propose de commencer cet épisode en parlant donc d'actualité politique naturellement. Et je vous propose de commencer par la progression de Jean-Luc Mélenchon. Celui qui appelle à voter efficace semble, pour une partie de l'électorat de gauche, constituer désormais le vote utile dans un paysage politique où la gauche n'a pas vraiment réussi à se réunir. Cette dynamique en faveur du candidat de la France insoumise résulte notamment d'une progression relativement importante dans les sondages ces dernières semaines. plus les jours passent et plus l'écart entre la candidate frontiste et le candidat insoumis se réduit. Malgré cette progression, Mélenchon reste, dans les sondages, aux portes du second tour où Marine Le Pen et Emmanuel Macron se tiennent déjà en pole position. On s'attend donc à un face-à-face Macron-Le Pen depuis plusieurs années, mais est-ce que cette progression de Jean-Luc Mélenchon pourrait faire voler en éclats ce scénario déjà tout écrit ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut créer la surprise ? Ou sommes-nous condamnés à voir l'histoire encore et encore se répéter ? Par ailleurs, quelles seraient les conséquences pour Emmanuel Macron, lui qui a tout fait pour se retrouver face à la candidate du Rassemblement national au second tour, si jamais il se retrouvait finalement face à Jean-Luc Mélenchon ? Et on va commencer avec toi, Odile. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça ?
Je disais tout d'abord une certaine méfiance vis-à-vis des sondages. Hein. L'histoire nous a appris que régulièrement, il tape à côté. Effectivement, on n'a jamais vu un candidat avec 1% aboutir à la réussite. Après, tu évoques la gauche. Alors d'abord, je crois qu'il faudrait peut-être qu'on définisse ce que c'est la gauche. Pour moi, le Parti socialiste, depuis très longtemps, n'est plus de gauche. Il est à minima social-démocrate, pour ne pas dire de droite. En tout cas, il soutient les politiques néolibérales qui ont fait tant de mal à notre pays. En ce qui concerne Jadot, il s'agit de mon avis personnel, même si j'ai plutôt de la sympathie pour ce qu'a défendu Sandrine Rousseau. Pour moi, il n'a pas une politique ni écologiste ni de gauche. Donc, il me semble que le seul qui peut encore se réclamer de la gauche, c'est Mélenchon, avec malheureusement un énorme bémol, c'est ses positions en matière de handicap qui vraiment sont, je dirais, du même niveau que celles de la droite et que celles des autres organisations politiques, ce qui me déçoit énormément parce que même si je ne suis pas militante de la France insoumise, je dirais pour des questions de mode de fonctionnement, je me retrouve quand même très très proche globalement de l'ensemble du programme qu'il a commis en dehors de la question du handicap qui me pose un vrai problème et qui fait qu'après avoir appelé à voter Mélenchon, je me suis mise en retrait de ce soutien et j'attends qu'il se positionne tout à fait clairement, est-ce qu'il est pour les droits humains, pour les personnes handicapées, ou est-ce que, encore une fois, on va être l'angle mort de cette campagne, soit dit en passant, je ne défends absolument pas la politique qu'a menée Macron, parce que alors Macron, pour moi, il est de droite depuis le départ, c'est le candidat du système néolibéral, et c'est ce que je disais déjà en 2017, donc qu'aujourd'hui la droite le rejoigne, ce n'est que finalement assez normal et qu'un certain nombre de gens du PS le rejoignent aussi. Finalement, la droite se reconstitue avec Macron. Voilà un petit peu ma vision de la situation. Et en tout cas, je ne croyais pas que Mélenchon pouvait grimper autant, en tout cas dans les sondages, et être davantage entendu il y a un peu plus d'un an. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais soutenu la primaire populaire. Parce que je pensais que, pour moi, il ne s'agissait pas de faire un accord de gouvernement avec le PS, avec d'autres, mais il s'agissait d'appeler les électeurs de ces organisations, qui, eux, les électeurs sont peut-être plus de gauche que leurs organisations, et les appeler effectivement à mettre en adéquation leurs valeurs et leur positionnement politique. Voilà, mais je m'arrête parce que comme je suis une grande bavarde, des fois il faut...
Non, mais justement, moi, je ne voulais pas que tu t'arrêtes et je te repose une question du coup. Est-ce que tu penses, avec les éléments qu'on a aujourd'hui, et tu as tout à fait raison d'insister sur la nécessité de se méfier des sondages, tu as bien fait de le rappeler en introduction, est-ce que tu penses quand même que Mélenchon pourrait créer la surprise et se retrouver au second tour ?
Alors très sincèrement, et en dehors du bémol que j'ai émis, je pense qu'effectivement, et peut-être que ce qui pourrait arriver de moins pire à ce pays, c'est effectivement, on est un deuxième tour Mélenchon-Le Pen ou Mélenchon-Macron, et que, effectivement, les choses soient clarifiées. Maintenant, il reste encore une semaine, et j'espère que Mélenchon va rassembler toute la famille de la gauche en mettant en avant les droits humains pour tous.
Merci beaucoup, Odile. Merci pour ces éléments. J'en profite peut-être pour se poser une question, parce que c'est vrai que c'est souvent un thème qui est oublié des campagnes présidentielles, les personnes en situation de handicap. Est-ce que toi, tu as identifié parmi tous les candidats à la présidentielle et candidates un ou une qui se distingue dans ce domaine?
Alors, je vais être tout à fait clair, aucun. Enfin, si, ils se distinguent tous par des approches hyper validistes et par une incompréhension. C'est-à-dire qu'en fait, ils en sont encore à la fatalité médicale. C'est triste, mais les vies de souffrance. Enfin, là aussi, hein, sur les représentations, forcément, être une personne handicapée, ça dépasse le champ politique, c'est une vie de souffrance et personne n'a envie de se retrouver handicapé, plutôt que de se dire qu'est-ce qu'on fait pour que notre société elles prennent les grands, les petits, les gros, les dépressifs, ceux à qui manque une jambe, ceux qui ne voient pas bien, parce que c'est ça finalement le validisme. C'est montrer que c'est juste des choix de société, d'organisation de la société qui font que la société elle va être adaptée à certains et pas à d'autres. Et je dirais que les seuls à avoir fait leur mea culpa pour l'instant sur leur programme, c'était Anas Kazib, des branches, je dirais, du PNPA, qui avait tenu des propos validistes en disant « oui, il faut plus d'IME », et il s'est fait défoncer par les associations de lutte contre le validisme, et on a eu des échanges où il a reconnu qu'effectivement, la gauche était à la remorque sur cette question. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a du mal parce qu'il y a un manque de dialogue, hein, tout simplement, parce que une des difficultés qu'on a en France aujourd'hui, c'est que les organisations, les partis politiques se tournent vers les organisations qui prétendent représenter les personnes handicapées. Or, ces organisations, quelles sont-elles? Ce sont des organisations gestionnaires d'établissements spécialisés qui donc sont en plein conflit d'intérêts en prétendant représenter les personnes. C'est un peu comme si demain en France, on laissait le MEDEF parler pour les ouvriers ou si on laissait les matons parler pour les détenus. Ça ferait un tollé énorme. Quand il s'agit de handicap, d'un seul coup, non, finalement… Les personnes handicapées, elles ne peuvent pas s'exprimer. Les trisomies qui sont trop bêtes pour pouvoir aller à l'école. Sauf qu'en Espagne, par exemple, il y en a qui sont à l'université et qui font des études supérieures. Mais déjà, si on n'apprend pas à un gamin à lire, à écrire, ce qui est le problème quasiment dans les IME, c'est sûr qu'il n'aura pas la possibilité de s'exprimer plus tard. Donc, la France est particulièrement en retard sur cette question et c'est la négation de nos droits humains. Donc, il faut vraiment que la gauche investisse ce champ et comprennent qu'on ne peut pas défendre les droits humains, défendre la lutte contre les discriminations, et en même temps négocier nos droits avec ceux qui nous privent de liberté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. L'ONU, on est au troisième rapport sur la situation de la France. Il y a trois termes qui émergent: ségrégation, privation de liberté, atteinte aux droits humains. Quand est-ce que la gauche va enfin se saisir de ce sujet? C'est lamentable, mais il est encore temps de progresser.
Voilà. Merci beaucoup, Odile. Je trouvais que c'était important de profiter de t'avoir sur le plateau de Popol pour qu'on puisse effectivement parler plus de ce thème-là qui est parfaitement absent de la campagne. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler un peu plus. Lucie, tu vois cette progression et cette stabilité quand même dans les sondages de Mélenchon. Tu la perçois comment?
Juste, je voudrais d'abord dire que l'intervention là, d'Odile est absolument passionnante et essentielle, et qu'effectivement, le validisme est quand même peu connu de manière générale, et que c'est une lutte absolument essentielle pour qui aurait dû être prise en compte par la gauche, principalement depuis longtemps. Et merci de le faire. Voilà. Ensuite, pour répondre sur la montée dans les sondages de Mélenchon, je ne me souviens pas trop des sondages de 2017. Je pense qu'ils étaient à peu près équivalents à aujourd'hui. Et donc, Mélenchon a fait 19% au premier tour. Je crois qu'on a de toute façon un gros problème d'union des gauches, ça on le sait depuis un moment. Que les partis n'ont pas su mettre en place, que les militants et militantes et au-delà les sympathisants de gauche espéraient parce que déjà en 2017 ça n'allait pas fort, mais que là on est très clairement dans un moment où on ne peut pas vraiment se permettre de laisser faire ce qui est en train de se faire. Et je crois qu'il faut aussi beaucoup réfléchir à la campagne d'entre-deux-tours qui va grandement décider aussi de la, enfin grandement décider de la politique à suivre, c'est-à-dire que dans l'entre-deux-tours, si on se retrouve avec avec une campagne Macron et Le Pen et les débats qui vont avec, on sait très bien toutes et tous à quoi on va avoir droit. On sait très bien la violence des propos qui vont être tenus. On sait très bien que ça va être le concours Lépine de l'idée la plus facho qui soit pour pouvoir l'emporter à la fin. Et très franchement, je pense qu'on a eu assez mal ces derniers temps, qu'on est passé, qu'on a subi beaucoup toutes ces mesures de droite, hein, parce que clairement, Macron n'est pas ni de droite ni de gauche, il est quand même bien, bien à droite, que la montée du Rassemblement national et l'émergence de Zemmour, c'est très clairement de son fait à lui, qui se cache depuis le début derrière la potentialité d'un barrage républicain au second tour en 2022, exactement comme il l'a fait en 2017 et comme tous les partis politiques le font depuis des années. Donc on va juste arrêter de se voiler la face, là on va droit dans le mur, et nous on aimerait bien juste que les questions de gauche, les vraies, soient remises un peu sur la table, que ce soit la justice sociale, que ce soit le validisme, le féminisme, que ce soit la lutte contre les inégalités. Je crois que c'est ça qui porte aujourd'hui la plupart d'entre nous, et puis beaucoup de gens qui se sont désintéressés à la politique, les abstentionnistes que personne n'a réussi à récupérer au passage, parce que cette campagne, ça a été des luttes de pouvoir plus que ce qui est censé être la politique, je crois, c'est-à-dire un combat pour la plupart, pour les gens et pour permettre aux personnes de bien vivre, d'être un maximum sereine, même si ce n'est pas facile, et d'accompagner en fait. Et là, on est dans des luttes de pouvoir, on est dans dans l'exercice total du patriarcat politique qui est de la domination, qui est de l'oppression. Et je crois qu'à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Donc, je dois avouer que la perspective d'un second tour dans lequel serait Mélenchon me porte à croire que les débats qui nous intéressent pourraient être mis sur la table et que la politique qui suivrait ensuite, quel que soit le résultat du second tour, s'en porterait sûrement mieux, parce que de toute façon, ça ne peut pas être pire que là où on va. Et par rapport au point de vue féministe qui est le mien, j'aimerais que ce soit vraiment, vraiment plus porté, qu'on arrête avec des boys clubs qui dirigent les partis, qui dirigent les gouvernements. Et ça, je crois que tout le monde a à réfléchir sur cette question, y compris la FI, mais qui a l'avantage d'avoir des femmes qui sont hyper importantes, hyper intéressantes et qui portent ces combats-là. Et je crois que ça, c'est essentiel.
Ouais, c'est clair, la nécessité de recentrer la gauche sur les combats, en fait, hein, les combats sociaux et de lutte contre la discrimination, quelle qu'elle soit, ça c'est certain. Pour revenir sur la dynamique un peu Mélenchon, j'étais allée voir justement les sondages de 2017 à 10 jours près. Il était à 19% quand même, hein, à moins de 10 jours du scrutin. Il est vraiment vachement plus bas quand même là, clairement, par rapport à par rapport au niveau où il était à 10 jours du scrutin en 2017. Là, il est à 15,5 et en 2017, il était à 19. Je vois qu'il était même monté à 19,5, genre 6 jours avant le scrutin, ce qu'il a fait finalement. Donc, bon, à suivre. Je crois que pour être qualifié au second tour, là, il lui faut 18% de mémoire. Donc, je trouve ça intéressant. Bon, on en est encore assez loin, effectivement. Mais toi, Héloïse, est-ce que tu penses que ça peut prendre, en quelque sorte? Parce que moi, j'ai le sentiment que, OK, en 2017, il y avait eu un petit peu de vote utile, enfin, comme on aime bien l'appeler, au profit de Mélenchon. En tout cas, moi, je me souviens, par exemple, j'avais fait une partie de la campagne de Benoît Hamon. Il y avait beaucoup, beaucoup d'électeurs et d'électrices qui me disaient, non, mais pour moi... OK, Hamon est bien sympa, mais il n'a aucune chance de passer, donc je vais voter Mélenchon. Et il y a eu quand même déjà pas mal de reports de voix, enfin en tout cas moi de mon entourage, j'avais remarqué au profit de Mélenchon du côté de Benoît Hamon, par exemple. Est-ce que ce vote utile, lui, il appelle efficace, enfin bon, voilà, on ne va pas se mentir, c'est quand même plutôt du vote utile, qui est basé sur sa progression dans les sondages, c'est quelque chose qui est plus présent ou moins qu'en 2017, Héloïse ?
Enfin, disons qu'on dit, enfin, bon, Mélenchon, il monte, mais bon, on vient de regarder les chiffres du sondage, il monte pas tant que ça, quoi, en sachant qu'il faut peut-être aussi poser la question de qu'est-ce qui s'est passé post-2017 au niveau de Mélenchon, parce qu'il y a quand même 7 millions de personnes qui ont voté pour lui. Alors, vote utile, pas vote utile, il y a quand même des gens qui étaient convaincus de cette campagne. Et il faut quand même dire qu'après 2017, Mélenchon, il n'a quand même pas construit grand-chose. On ne l'a pas vu énormément dans des luttes, à part faire quelques apparitions dans des manifestations qui avaient des fortes potentialités de réussite, quoi. Et on va dire quand même que Mélenchon, c'est une dynamique qui est très électorale, quoi, hein. Et que, bon, enfin, ce qui monte quand même, mais ça, Lucie l'a dit aussi, quoi, c'est quand même plus les idées réactionnaires, des attaques sociales, racistes. Bon, Mélenchon, 15% dans un sondage, pas sûr que ce soit une émulsion particulière, quoi. Enfin, en sachant que bon, nous, on ne défend pas le vote utile. On sait qu'on est crédité de 1% de voix dans les sondages et tout ça. Bon, nous, on ne pense pas que voter Mélenchon pour faire barrage à Le Pen, ce soit un vote utile, parce qu'on ne pense pas que ce soit dans une société capitaliste. Donc, Mélenchon est un politique capitaliste. On ne pense pas que ce soit dans une société capitaliste qu'on va pouvoir changer le sort de toute la population, quoi, des travailleurs, des travailleuses et tout. Enfin, comment dire, c'est vrai que voter utile Mélenchon, bon, c'est un peu, ce serait illusoire de dire oui, oui, votez Mélenchon et votre vie va changer, quoi. Enfin, Mélenchon, il le dit lui-même, quoi. Moi, à la présidence, ce sera des kilomètres de manifestations en moins. Mais on n'est pas du tout d'accord avec ce programme, parce qu'on pense que c'est justement des luttes, des grèves, des manifestations et des mobilisations de militants politiques et associatifs qui va vraiment permettre de faire avancer les choses, en sachant que Mélenchon a déjà largement participé au gouvernement précédent, pour ne citer que son apparition dans le gouvernement Jospin au début des années 2000. Ça fait un petit moment, mais bon, il était au PS, il a fait le Front de Gauche et tout. Enfin, je veux dire, il est quand même, c'est une tête très connue, quoi. Donc non, en fait, le vote utile, nous, on ne le défend pas, et on défend plutôt un vote qui permettrait de faire émerger des idées un peu radicales et différentes. Et on pense que bon, le NPA ou Lutte Ouvrière, par exemple, sont des candidats à ce véritable changement, quoi. Et voilà, je ne sais pas si j'ai très bien répondu à toute la question.
C'est un peu... Si, mais la question aussi, c'est toi, comment tu vois les choses ? Est-ce que tu penses que, au-delà du fait que, ça on a bien pigé, que le NPA appelle pas à voter utile pour Mélenchon, est-ce que tu penses que, en dehors des militants et militantes du NPA, peut-être des personnes que tu côtoies en dehors de ce cercle militant, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a quand même une certaine prise de conscience à gauche qui considère que, bah, comme on n'est pas arrivé à faire une union, quelle qu'elle soit, bah, finalement, les gens se disent « Allez, je vais voter Mélenchon ».
C'est vrai que y a beaucoup de personnes, que ce soit sur Twitter ou même en physique, quoi, qui disent « Moi, mon candidat de cœur, c'est Poutou. Je suis d'accord avec le programme de Poutou, les idées de Poutou. Et par contre, je vais quand même voter Mélenchon, quoi. » Et c'est vrai que, bon, voilà, nous, ce qu'on leur répond, c'est notre argumentaire sur le vote utile, quoi. Parce que, enfin, on ne pense pas que ce soit utile et dans l'intérêt de tous de voter Mélenchon à tout prix, en sachant que, enfin, je veux dire, il y a pas eu une énorme progression depuis 2017. Est-ce qu'il pourra créer la surprise ? Bon, on n'est pas dans la... Enfin, je ne vais pas faire de politique fiction, mais je ne suis pas sûre non plus, quoi. La question, elle se posera le soir du 9 avril, à mon humble avis, quoi.
Ouais, bah on va voir ça effectivement de très près, puisqu'en plus, c'est bientôt. Odile, je te voyais pas très convaincue, je te voyais un peu tourner la tête pendant que Héloïse parlait. Tu veux peut-être réagir un peu à tout ce qui s'est dit ?
Alors moi, je suis très, très embêté parce que, comme vous l'avez compris, j'ai un problème avec une partie du programme de Mélenchon, mais dans l'absolu, je veux dire, D'abord, il y a des enjeux, je pense, cette année qui n'existaient pas, mais qui n'avaient pas émergé il y a quelques années. Moi, je voudrais quand même rappeler le rapport du GIEC. Dernier rapport du GIEC, c'est catastrophique. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre que cette question-là, elle ne soit pas au cœur de la campagne. Au cœur de la campagne, non pas pour faire de l'écologie pour les bobos, hein, mais pour avoir un programme qui, à la fois, fin du mois et fin du mois, quoi. Enfin, je veux dire, on peut faire de l'écologie en ayant une approche sociale, c'est-à-dire qu'en considérant que les plus grands pollueurs, d'abord, ne sont pas les plus pauvres, mais bien au contraire les plus riches, et que ce qu'il faut stopper, c'est la consommation des plus riches et réorienter la consommation des plus pauvres, déjà en supprimant la publicité, qui est un appel d'air énorme à acquérir des biens qui sont inutiles, pour ne pas dire, quand on parle d'alimentation, qui sont nuisibles à la santé de l'humain. On va, dans les 10 prochaines années, affronter des crises majeures. Enfin, moi, j'ai vécu dans le sud-est, j'étais à côté de Vaison-la-Romaine, à Orange, quand il y a eu ces inondations catastrophiques. Je crois que les gens, et puis il y a eu des inondations dans l'Aude l'année dernière, enfin, je veux dire, on continue à construire n'importe comment, on n'anticipe rien, c'est le pognon avant tout le reste, et chacun est dans son guidon et refuse de voir qu'il y a un enjeu majeur. Et là-dessus, effectivement, bon, je dois dire que le programme de bifurcation écologique et notamment de remettre en place des paysans, parce que ça aussi, je veux dire, quand est-ce qu'on va s'approvisionner local en cessant de produire avec des intrants en pagaille qui provoquent des maladies de Parkinson? Ma mère est morte d'un Parkinson, je veux dire, à l'âge de 50 ans. Donc, je suis particulièrement sensibilisé à ces questions. Et voilà, je pense aussi que Mélenchon a quand même... les équipes de l'AFI ont fait un travail de terrain, peut-être plus que d'autres organisations politiques sur la question de l'abstention. Simplement, le problème, c'est qu'ils s'y sont pris trop tard. Ça fait 5 ans que ce travail aurait dû être fait. Et nous, vous voyez, c'est par exemple le travail qu'on fait avec le groupe politique dont je fais partie, archipel, enfin, issu d'Archipel Citoyen, c'est d'être présent sur le terrain, même si les élections municipales ne seront que dans 4 ou 5 ans. Parce que c'est aux côtés des habitants et en partageant avec eux nos expériences et eux avec nous, parce qu'ils ont aussi beaucoup à nous apporter sur ce qu'ils ont à défendre comme solution pratico-pratique sur leur vie quotidienne. Et donc, pour moi, c'est des enjeux majeurs. Et puis, effectivement, il y a cet enjeu de l'approche intersectionnelle des discriminations, qui est aussi un enjeu majeur de façon à faire progresser la société et arrêter de faire que, effectivement, la norme et l'idéal à atteindre, ce soit le mâle blanc valide, productif, parce que dire que, comme le dit le MPA, Mélenchon n'est certes pas anticapitaliste au sens où il ne remet pas en cause, par exemple, la propriété privée ou d'autres choses. Moi, je suis pas anticapitaliste à ce point. Alors après... Je n'ai pas une énorme culture politique, mais je pense que déjà, lutter contre l'excès de richesse et de pouvoir d'un certain nombre et rééquilibrer les enjeux et puis faire que le but d'une vie, ce ne soit pas d'accumuler des richesses, déjà, pour moi, c'est un signal important. Et je pense qu'il n'y a pas photo entre ce que peuvent proposer Le Pen, parce que Le Pen, c'est une politique de droite. Enfin, je veux dire, il suffit d'examiner tous les votes de Le Pen au niveau européen ou ailleurs. À chaque fois, ils ont choisi le camp des grosses entreprises, des boîtes du CAC 40 et le camp de la régression sociale et de la régression des droits des populations, y compris des celles qui sont les plus fragilisées. Macron, Macron, c'est un désastre. Enfin, moi, tout à fait clair, hein, j'ai voté Mélenchon en 2017 au premier tour, même si à l'époque son programme handicap n'était pas génial non plus, mais je m'étais dit ça s'améliorera, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ouvre ma gueule aujourd'hui, parce qu'il est hors de question qu'on fasse 50 plus comme ça, quoi. Mais Macron, déjà, bon, j'avais bien compris que le néolibéral qu'il était et que le roi de la Startup Nation n'apporterait que du désespoir sur le plan économique et sur le plan social. Par contre, ce que j'avais sous-estimé, et ça, en ça, il est particulièrement dangereux, c'est le recul phénoménal sur le plan des libertés que nous avons vécu. Et je veux dire, moi j'ai 58 ans, j'ai jamais eu de casier, j'ai jamais été, je veux dire, condamné pour quoi que ce soit. J'en suis à 5 procès correctionnels, simplement parce que je défends les droits des personnes handicapées. On a, pour protester justement contre la politique de recul que nous a, qu'on a encaissée avec, avec Macron, parce qu'il ne s'est pas contenté de ne pas faire progresser les choses, avec sa soi-disant priorité handicap. J'ai d'ailleurs souvent dit que la seule priorité handicap qu'on a vue, c'est qu'on est devenu égaux des valides pour se faire défoncer la gueule en manifestation et pour se faire condamner. C'est le seul domaine dans lequel la politique du handicap a progressé, pas sur le reste. Donc, il y a un recul énorme et toutes les lois qui ont été votées sont, sont affligeantes. Et puis, la manière dont la crise sanitaire a été gérée, clairement, on a choisi de sacrifier les vieux et les handicapés. Je veux dire, cette histoire de retrait du masque en intérieur alors que les contaminations explosent, la manière dont on a fait monter les mouvements anti-vax, dont on a fait monter l'extrême droite, parce que je suis au regret de constater que beaucoup, trop de mes camarades de Gilets jaunes, croyant avoir affaire à... Enfin, le problème, c'est qu'il y a des gens qui confondent, qui pensent que si on est contre Macron, on est avec nous. Ben non, je suis désolé, on peut être contre Macron et pas être de notre camp. Et la secte canon, les complotistes, conspirationnistes plutôt, parce que le complot existe, et donc c'est faire un jour aux ans de parler de complotisme. Je parle plutôt de confusionnisme, c'est-à-dire de dénoncer les choses qui sont réelles, l'emprise effectivement du lobby l'industrie pharmaceutique. Effectivement, il y a des choses, mais maintenant, voilà, je fais partie des gens qui se sont beaucoup informés sur cette question et.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ben, je défends la vaccination, mais par contre, le pass vaccinal, c'est une hérésie. Le pass vaccinal n'a jamais empêché d'être contaminé, d'être contaminant et de tomber malade et de mourir. Il réduit simplement les risques. C'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant.
C'est sûr. Je voulais revenir sur un élément que tu as soulevé, Odile, qui me semble super intéressant, et j'aurais aimé avoir aussi l'avis de Lucie et de Héloïse là-dessus. La question des abstentionnistes, justement, et comment LFI a ou pas, d'ailleurs, justement, suffisamment bien travaillé pour aller chercher les gens qui pourraient éventuellement voter pour eux et elles, mais qui aujourd'hui hésitent ou sont encore dans l'abstention, parce qu'on le sait, on risque d'avoir une abstention encore record et elle ne cesse d'augmenter élection après élection. Lucie, toi, tu penses que LFI peut réussir, et Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence, peut réussir à séduire certaines personnes qui sont encore dans le doute d'aller glisser un bulletin en urne le dimanche prochain ?
Pas certaine, non. Je ne suis pas certaine parce que, comme disait Héloïse tout à l'heure, en fait, c'est aussi un travail qui aurait dû être mené en amont depuis des années et que, c'est bien joli d'aller chercher les gens juste à quelques mois d'une élection pour récupérer des voix. Mais pour moi, la politique, c'est pas ça. C'est pas s'intéresser aux gens uniquement quand il y a une échéance. Et je crois que ça, absolument tout le monde le fait, tous les partis le font. Et je pense que les voix que va récupérer Mélenchon, ça va être les voix de gauche pour cette question du vote utile, pour le fait qu'on n'a pas eu d'union de la gauche. Mais les abstentionnistes, il faut les intéresser autrement. Il ne faut pas juste aller les draguer pour qui mettent un bulletin dans l'urne et puis ensuite oublier qu'ils sont là et oublier que ça fait des années et des années que tout le monde les rejette. Enfin, les abstentionnistes, ils ne sont pas abstentionnistes pour rien. Les, les, les jeunes, les personnes dans les quartiers, tous les gens qui sont oubliés par les politiques sociales, tous les gens qui se reconnaissent pas dans les politiques actuelles, qui voient que personne ne fait rien justement pour le réchauffement climatique, que ce n'est absolument pas un sujet, alors que bah, ça va très très mal se passer en fait si on continue comme ça, et avec des politiques de droite qui en effet ne s'intéressent qu'à faire de l'argent et à continuer à faire monter les capitaux, bah, très clairement le travail est à faire avant. Et du coup, je crois pas que les abstentionnistes vont venir maintenant, et c'est pas 10 jours de l'élection que ça va se réveiller. Et ça, c'est une immense erreur de la gauche depuis des années, et c'est justement ce que Sandrine Rousseau a apporté pendant la primaire, et elle a ramené à elle pas mal de gens du coup, qui étaient en dehors des partis, qui étaient militants ou pas militants, et qui sentaient qu'il y avait peut-être une dynamique de ce côté-là. Mais je crois que c'est un peu retombé, quoi. Enfin, retombé. Là, du coup, j'ai l'air complètement déprimée. Je confirme.
Non, ouais, mais t'as pas tort. Et toi, Héloïse, tu partages l'avis de Lucie sur cette question d'abstentionnisme et de responsabilité, en fait, de tous les partis, en quelque sorte, et du gouvernement aussi, parce que le gouvernement est là aussi pour mobiliser les citoyens et les citoyennes et leur donner la possibilité de pouvoir voter en citoyennes et citoyens éclairés, comme on dit.
Oui, en fait, je suis assez d'accord quand même sur le côté manque de représentativité. Enfin, quand on regarde un peu les chiffres de l'abstention, c'est une majeure partie de personnes des classes moyennes, pauvres, précaires. Je voudrais aussi ajouter un mot sur toutes les populations immigrées qui représentent une grande masse des travailleurs en France et qui ont, eux, pas le droit de vote. Hein, donc c'est pas non plus représentatif de forcément toute la population. Quand on parle des gens qui peuvent voter, il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas ce droit, quoi. C'était juste une petite aparté sur ça, mais oui, je suis assez d'accord qu'en fait les gens qui se sentent pas représentés, je suis pas sûre que ce soit à 10 jours des élections qui vont se réveiller en se disant ah mais finalement je vais voter pour ce candidat, en sachant que, enfin, les études le disent, que les sujets qui sont mis en avant par presque une majeure partie des candidats à l'élection présidentielle, hein, l'immigration et tout ça, c'est pas du tout le sujet principal des préoccupations chez les Français, quoi. Enfin, le premier sujet, il me semble que c'est l'écologie, si je dis pas de bêtises. Et le pouvoir d'achat avant l'écologie, c'est pouvoir d'achat écologie, et l'immigration dont ils n'arrêtent pas de nous parler n'est pas du tout le sujet au centre des préoccupations de tout le monde, quoi. Donc voilà, enfin après bon, pour, oui, sur le truc de l'abstention, je pense pas qu'il y ait des gens qui vont à 10 jours des élections se mettre à militer ou avoir un candidat de choix, quoi. Je pense que c'est d'ailleurs un signe un peu d'une contestation sourde, quoi, des gens qui ne se sentent pas représentés et qui, à défaut de se sentir d'aller dans la rue, d'aller protester, d'entrer un peu en bagarre, quoi, ont comme perspective cette contestation silencieuse, quoi. Et bon, nous, évidemment, on a quand même envie que ça se retranscrive ailleurs, quoi, dans la rue notamment, mais oui, voilà. Bon. J'ai fini.
Merci beaucoup. Odile, tu peux conclure sur ce thème? Je sais que tu voulais rajouter quelque chose, s'il te plaît. Merci.
Oui, alors, d'abord, je pense que, enfin, moi, l'analyse que je fais, et même si on a tous des biais hein, par rapport au contact, mais je fréquente quand même des gens très différents, c'est que la France, elle est plutôt de gauche que de droite. Par contre, pourquoi ça ne se traduit pas dans les urnes? Parce que la droite, elle va voter. La droite et l'extrême droite vont voter, ne se posent pas de questions. Par contre, à gauche, on se pose trop de questions, d'abord parce qu'il n'y a pas qu'un seul choix, hein. Ça va du NPA à LO à d'autres, et puis surtout parce que l'analyse de beaucoup de gens de gauche, et parmi ceux qui sont les plus polarisés, elle est me semble-t-il, biaisé par le fait que les gens s'imaginent que l'abstention va finalement créer un réveil de la population et que si l'abstention progresse trop, il y aura une réaction des pouvoirs politiques. Et je pense que là, l'analyse, elle est fausse. Et je vais vous donner un exemple. C'est l'analyse de la droite sur le sujet. Le maire de Toulouse, vous savez ce qu'il a fait pour se faire inscrire ? Il dit qu'il a gagné dans les quartiers populaires. En fait, non, c'est, il, a pas, enfin, il a à la fois gagné dans les quartiers populaires et pas. Parce qu'effectivement, l'abstention a été massive dans les quartiers populaires, mais les gens n'ont pas voté pour lui. Simplement, il a mis en place un système qui s'appelait les mouchoirs blancs pendant la campagne municipale. C'est-à-dire qu'il avait envoyé des gens aller dans les quartiers populaires et inciter la population à voter blanc en mettant un mouchoir blanc dans l'urne. Parce que chaque fois que les gens votaient blanc, en faisant monter l'abstention, ça faisait gagner son camp. Et je crois que tant que les Français ne comprendront pas que l'abstention favorise la droite et l'extrême droite et qu'elle ne change rien, effectivement, à la manière dont fonctionne notre République et son côté très antidémocratique, on n'avancera pas. Et je vais être un peu plus radical que ça, je vais dire qu'aujourd'hui, on a deux solutions pour changer la donne. C'est la révolution, je dirais, par les armes, dans la rue et par les armes, ou les urnes. Et personnellement, voilà, je préfère les urnes. Donc, je pense vraiment qu'il faut que les Français comprennent que, c'est mon analyse en tout cas, ne pas voter ne changera rien et que cette manière d'affirmer sa colère, parce que je rejoins Héloïse là-dessus, d'affirmer sa colère et son dégoût, ne fait que renforcer la droite et l'extrême droite. Et que le problème aussi, c'est les non-inscrits. Là-dessus, je pense que l'AFI a fait quand même du boulot, parce que je crois qu'il y a eu plus d'un million de personnes qui se sont inscrites sur les listes. Et moi, je fais quand même un lien entre le travail qui a été fait, peut-être aussi par des gens du NPA ou d'autres organisations, hein, qui essayent de conscientiser, de politiser les populations. Je pense que voilà, tant qu'on aura des partis politiques qui sont plus préoccupés pour un certain nombre de placer leurs pions, comme l'a fait le PS pendant des années, et comme le fait une partie des Verts, en tout cas, depuis quelque temps, voilà, on ira à la cata.
Merci beaucoup à toutes les trois pour vos éléments sur ce thème. On va passer très vite sur le deuxième thème, parce qu'on a passé pas mal de temps sur la gauche, finalement, sur Mélenchon et entre autres. Alors, je vous propose quand même de passer un petit moment sur ce qui se passe à droite. On peut dire que c'est le bordel, hein. Allez, c'est parti, le bordel à droite. Analysons un peu ça. Valérie Pécresse est désormais nettement devancée dans les sondages. Celle qui semble subir sa campagne depuis le début de l'année attend désespérément un nouvel événement pour bénéficier d'un nouveau souffle. Cet événement aurait pu être le soutien de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, soutien que ce dernier ne semble pas vouloir apporter à la candidate républicaine. Certains bruits de couloir nous laissent entendre que l'ancien président pourrait apporter son soutien au président sortant, Emmanuel Macron. Cela constituerait une difficulté supplémentaire pour Valérie Pécresse, tout en érigeant Emmanuel Macron en héritier naturel de la droite. Une droite qu'il a volontairement sabotée et vidée d'une partie de ses cadres même qui ne cessent de se rallier à l'ancien ministre du gouvernement socialiste. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que le Parti Les Républicains est en passe de se retrouver dans une situation aussi catastrophique que celle du PS aujourd'hui ? Est-ce que les futurs accords envisagés entre Macron et certains ténors de la droite seront de nature à flinguer davantage le parti tout en permettant à En Marche d'asseoir son emprise locale lors des prochaines législatives ? Ce que le parti présidentiel finalement a peiné à faire pendant toute la durée du quinquennat. Lucie, tu en penses quoi de tout ça ? Qu'est-ce que ça t'inspire ?
Ça m'inspire une envie de sortir des pop-corns, premièrement. Et ensuite, je pense qu'en effet, LR risque de rejoindre un petit peu le PS sur la pente descendante, qu'en même temps, comme on l'a dit plusieurs fois, Macron est de droite. On sait très bien quel a été le rôle de Sarkozy aussi dans le quinquennat de Macron. À quel moment Sarkozy pourrait soutenir Pécresse alors qu'il y a de grandes chances pour que Pécresse fasse un score bien plus bas que prévu, qu'évidemment il y a des calculs sur les législatives et qu'il est en bonne entente avec Macron depuis un certain temps. Enfin, on a vu la transformation de Macron qui s'est sarkozydé au fur et à mesure du temps, des mesures que Sarkozy aurait sûrement adoré prendre, Macron les a prises. le nombre de ministres et de Macron qui sont issus de LR, qui étaient proches de Sarkozy. Enfin, à un moment donné, il faut, appeler un chat aussi. Et je crois que Sarkozy n'a aucun intérêt à se ranger derrière Pécresse parce que son électorat à lui est celui de Macron maintenant. Et qu'il va essayer de rejoindre une personne qui est en position de gagnabilité pour essayer de retrouver une crédibilité. Enfin, il s'est quand même pris une claque à la primaire LR en 2016, Sarkozy. Je pense que si là, il soutenait Pécresse et qu'il se trouvait que le camp perde à nouveau, c'est sa crédibilité qui en pâtirait. Et je crois que c'est plus à ça qu'il pense qu'à l'avenir de LR.
Oui, c'est clair. Toi, Héloïse, tu savoures ça aussi, hein, comme Lucie qui a décidé de sortir les pop-corn.
Oui, bah après, je pense quand même que ce soit LREM, LR, le RN, le parti de Zemmour, enfin, ils sont morcelés, pour savoir qui obtiendra le trône de président. Par contre, ils défendent à peu près tous quand même les mêmes idées à plus ou moins certaines nuances ou certains degrés, quoi. C'est quand même un peu la question de qui accédera au poste suprême. Et c'est vrai que Macron a une façon très à lui de siphonner les élus de droite, quoi. Il est quand même un peu aidé. Là, il y a un article du Monde qui est sorti sur Thierry Soler, qui est un conseiller de la campagne de Macron, ancien proche de Sarkozy, proche d'Édouard Philippe, et qui ramène un peu tout ce beau monde de droite dans le camp de LREM. Est-ce qu'ils vont avoir une emprise pour les élections législatives après? Bon, je ne sais pas dans quelle mesure ça a une réalité sur la population qui doit voter, quoi. Parce que oui, il y a une polarisation de l'électorat de droite qui se pose quand même encore la question aujourd'hui de savoir si elle va faire un barrage à Macron ou elle va s'y rallier, quoi. Donc la question, elle est quand même un peu en suspens, mais il faut quand même dire, pour conclure, que ce soit Macron, Pécresse, Marine Le Pen, Zemmour plus loin, mais enfin, tous, ils racontent à peu près la même chose, et que ce soit l'un ou l'autre, la politique risque d'être tout aussi dégueulasse, quoi. Enfin, je ne sais pas si on a le droit de dire des gros mots dégoûtantes, si jamais tu veux.
Oui, non, tu peux dire dégueulasse, dégoûtante, tu dis bien ce que tu veux, effectivement. Je pense que, ouais, voilà, c'est un peu cata, mais bon, moi, j'en garde quand même... Voilà, ma conclusion, ce sera, j'ai bien l'impression que Macron, c'est quand même le bonhomme de droite maintenant qui est un peu l'héritier naturel de cette droite pseudo-libérale. Mais c'est pas méga encourageant, mais effectivement, Odile, tu veux peut-être conclure sur ce thème?
Je pense effectivement que Macron a su aussi bien siphonner et mettre à bas la gauche, qui avait d'ailleurs quand même... fait plein d'efforts pour en arriver là, et la droite aussi, qu'effectivement le paysage politique avec des politiques, des hommes et des femmes politiques devenus des professionnels à la politique complètement coupés des réalités, on l'a vu aussi bien dans ceux qui se réclamaient de la gauche que ceux qui se réclamaient de la droite. Et qu'aujourd'hui, on est en train, me semble-t-il, d'assister à une recomposition entre ceux qui sont... en tout cas, on lutte contre le néolibéralisme, à minima, et le capitalisme, et ceux qui sont pas. Et ce que je regrette, c'est la disparition d'une certaine droite dite sociale, d'une certaine droite gaulliste, qui avait posé beaucoup de problèmes, mais qui était quand même beaucoup moins violente dans sa manière d'imposer... ses choix politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant des années, on a fait semblant d'être une démocratie où il y avait quand même la possibilité de résister à un certain nombre d'actes, et aujourd'hui, on est passé à quelque chose d'extrêmement violent, qui n'hésite plus à mutiler, voire à tuer, pour faire entendre son point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, on est, je pense, face à, Pendant très longtemps, il y a eu l'équilibre hein, entre. Il y avait comment dire, hein, je ne formule pas bien le combat qu'il y avait entre l'URSS et les États-Unis hein, faisait une sorte de statu quo dont la France, je pense, a bénéficié avec des mesures qui n'étaient pas. Qui n'étaient pas aussi radicalement de droite qu'elles le sont aujourd'hui. Et il y avait un espèce d'état social qui n'était peut-être pas hyper satisfaisant, mais qui a permis qu'il y ait une classe moyenne, qu'il y ait effectivement que ceux qui pouvaient accéder à l'emploi puissent s'en sortir un peu. Enfin, moi, je me rappelle les années 80, les ouvriers qui prenaient leurs 5 semaines de congés payés et qui. S'en sortait quoi. Aujourd'hui, quelqu'un qui touche le SMIC ne s'en sort plus quoi. La réalité, elle est là. La lutte des classes a perdu et comme l'ont dit, je sais plus qui, c'est extrêmement inquiétant de voir comment le capitalisme est devenu encore plus agressif et encore plus c'est-à-dire qu'en fait, il est en train de retirer les oripeaux de la démocratie et de montrer vraiment ce qu'il est, et avec cette formidable capacité à s'adapter aux circonstances. Et effectivement, même si on peut être très critique vis-à-vis de ce qui s'est passé en URSS, ça maintenait quand même malgré tout un certain équilibre qui n'existe plus aujourd'hui. Et on s'est tous fait bouffer par la société de consommation. Et moi, je pense à ma génération où... dire, moi, je n'étais pas sensibilisé dans les années 80 à cette question-là, à la manière dont la société de consommation nous a bouffé le cerveau, je dirais. Et où on a développé des envies qui n'étaient pas des vrais besoins, des besoins fondamentaux, parce que les besoins fondamentaux de l'être humain, c'est quand même le lien social avant tout, et qu'il est très pernicieux. Et qu'aujourd'hui, quand je vois des jeunes espérer devenir... youtubeur, start-upper aller faire du fric je ne sais où. Heureusement qu'il y en a d'autres qui effectivement ont envie de sauver le monde, de refaire le monde. Ça équilibre un peu les choses, mais enfin l'équilibre est quand même difficile à trouver. Et en tout cas, la droite va... je pense que ça va permettre de clarifier en espérant juste que ceux qui votaient à droite par tradition et qui étaient un peu, je dirais, les représentants de la droite sociale, ouvrent les yeux sur le fait qu'il n'y a plus du tout de droite sociale depuis très longtemps, et si jamais elle l'a été, quoi. Et peut-être, ceux qui ont des valeurs, je dirais, humanistes, vont peut-être un jour choisir leur camp, clairement. Enfin, c'est ce que j'espère.
Ouais, c'est ce qu'on peut espérer aussi. Merci beaucoup à toutes les trois pour vos éléments sur ces deux thèmes dont on a parlé aujourd'hui. C'était assez cool de pouvoir échanger avec vous. Merci. On a été bavarde, mais c'est bien. Je pense que ça valait le coup de prendre le temps aussi de parler d'un certain nombre de choses. Donc, merci beaucoup. On va passer aux infos que vous souhaitiez partager avec nous aujourd'hui. On va commencer avec toi, Héloïse. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît?
Ok. Mais du coup, je voulais revenir sur la date du 8 mars. On est une émission où il n'y a que des meufs qui parlent et le 8 mars, je ne sais pas si ça vous parle, c'est le début de la révolution russe en 1917 qui aujourd'hui est la journée des droits des femmes, mais c'est aussi le jour où il y a eu une grève d'ouvrières du textile à Saint-Pétersbourg qui se sont adressées aux autres ouvriers et qui ont déclenché le développement de tout le mouvement révolutionnaire qu'on a pu connaître quoi, dans cette histoire de la révolution russe. Raconter un peu elles avaient pris leur place dans cette révolution de la même façon que les hommes, qu'elles étaient à la fois au front, à organiser des cantines roulantes, des services de soins, qu'elles faisaient aussi partie de l'armée rouge, tout comme leurs comparses masculins, quoi. Qu'il y a aussi eu quand même dans ce gouvernement des femmes qui ont obtenu des sièges importants. Je ne sais pas si vous avez lu, c'est une écrivaine quand même féministe bolchévique Alexandra Kollontai, qui a été quand même commissaire du peuple à l'assistance sociale. Voilà, et que, bon, il y a quand même eu cette réflexion hein, dans ce mouvement révolutionnaire de comment faire pour que cette libération de la femme, elle soit réelle et pas abstraite, et comment un peu anéantir ces racines qui asservissent les femmes, quoi. C'est vrai que dans ce moment le pouvoir soviétique il a tenté de créer des conditions nécessaires pour libérer la femme hein, des tâches domestiques auxquelles elle était astreinte, quoi, en jetant les bases d'un mode de vie un peu collectif, pour citer quelques exemples hein, des maisons de repos, des cantines municipales où les enfants pouvaient manger gratuitement, avec toute une réorganisation de la société et du quotidien dans l'intérêt en fait de ces travailleuses, quoi. Bon, l'exemple évidemment n'a pas été de toute simplicité hein, parce qu'il y avait quand même la réalité, hein, c'est-à-dire beaucoup de pauvreté. Donc, c'était quand même très difficile de mettre en branle toutes ces mesures sans avoir énormément de moyens. Hein. Dans ces cantines, le repas était très peu fourni. Il y avait quand même de gros soucis matériels. Mais bon, voilà, en fait, c'était un peu pour conclure, du coup, juste pour dire que c'est un bel exemple, je trouve, quand même, de lutte où les femmes, elles ont eu leur place au premier plan. Et en fait, ça donne quand même des perspectives assez réjouissantes pour la suite, quoi. Voilà, j'ai fini.
Merci beaucoup. Odile, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît?
J'avais prévu de parler de validisme, ce que j'ai commencé à faire. Je vais quand même... rester sur ce sujet, j'ai un tout petit peu préparé, pour dire que la lutte contre le validisme, c'est quoi le validisme? C'est un système d'oppression et de discrimination contre les personnes handicapées, à l'égal du racisme et du sexisme. Et je voulais pousser un coup de gueule contre les partis qui se réclament de la gauche et des droits humains et qui tranquillement tokenisent en reprenant le vocabulaire de nos luttes, en utilisant des termes de validisme, de désinstitutionnalisation, mais ne maîtrisant pas les concepts et n'ayant pas travaillé le sujet, on arrive à publier des programmes qui défendent tout et son contraire, et notamment la poursuite de la ségrégation des enfants et des adultes handicapés, mis à l'écart de la société dans les établissements spécialisés, et qui ne proposent pas, qui ne mettent pas en avant des propositions qui permettent de se donner les moyens, quel que soit le type de handicap, et je pourrais développer auprès de tous ceux qui voudront, de se donner les moyens de vivre dans la communauté avec tous les accompagnements nécessaires pour justement participer à la vie en société à égalité avec les autres. Alors, Jadot a tout à fait, il y a quelques jours, commencé à faire un petit mea culpa en parlant de désinstitutionnalisation, mais pour l'instant, il n'a pas clarifié puisque son programme n'a pas été mis à jour. Et dans son programme, il propose de continuer à financer des établissements, des lieux de ségrégation. Et quant à Mélenchon, Mélenchon, pour l'instant, le silence commence à ressembler fortement à du mépris. Alors, j'entends qu'il soit particulièrement chargé, et j'entends que le côté gazeux de l'AFI puisse expliquer, mais ça ne peut quand même pas justifier d'avoir fait appel à des militants qui ne maîtrisaient pas le sujet et qui en sont arrivés à pondre un programme validiste contraire à nos droits fondamentaux. Les organisations de gauche se retrouvent à ne pas faire mieux que la droite. Et moi, je me rappelle des cris d'Orphée quand Zemmour a dit que oui, tous les enfants n'avaient pas leur place à l'école. C'est quand même ce que proposent tous les candidats qui se revendiquent de la gauche. Donc, ce n'était pas la peine de pousser des cris d'Orphée quand ça les arrangeait de taper sur Zemmour, contre qui, bien entendu, je suis tout à fait prête à taper encore plus fort que s'il le faut. Il faut savoir quand même que, en ce qui concerne la France insoumise, c'est depuis mai 2021 qu'on a proposé, mon organisation et d'autres organisations de lutte contre le validisme, de venir faire participer à la compréhension. Il n'y a que Daniel Obono qui a auditionné Elisa Rojas, jeune avocate qui est un peu le fer de lance du combat contre le validisme et qui, effectivement, s'est intéressée à la question. Mais on a, au sein de l'équipe Mélenchon, des gens qui sont encore dans une vision institutionnelle, que ce soit pour les vieux et les handicapés. Et donc, je souhaite là aussi pointer le fait qu'à très haut niveau, et c'est peut-être ça qui bloque, notamment le directeur de campagne, Manuel Bompard, qui est averti de mai 2021 de l'enjeu et qui, malgré nos demandes, il n'est même pas capable, vous voyez, des trucs tout bêtes, que la communication du parti veille à décrire l'ensemble des images sur Twitter pour ne pas exclure les militants aveugles du débat politique. Donc, il y a deux enjeux majeurs, pour conclure, pour nous. C'est la question, deux enjeux majeurs qui ont été mis en avant par l'ONU, c'est que les organisations gestionnaires cessent de parler à la place des concernés et que ce soit les personnes directement concernées qui soient représentées et qui participent aux décisions concernant les politiques du handicap, et puis qu'on arrête de poursuivre la création d'établissements spécialisés qui n'ont pas lieu d'être si on se donne enfin les moyens d'avoir tous les accompagnements dans la commune, dans la vie, dans la communauté.
Merci beaucoup, Odile. Et enfin, Lucie, pour conclure cette émission, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Eh bien, du coup, moi, je vais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit là et sur le reste de l'émission, en mettant en avant l'importance pour chacun et chacune d'exprimer sa voix au quotidien, de ne pas laisser justement les partis politiques sortir des programmes dans lesquels on feint de s'intéresser à certaines choses par opportunisme électoral. Les luttes contre les discriminations, quelles qu'elles soient, contre les LGBT-phobies, contre le sexisme au quotidien, les violences sexistes et sexuelles, le validisme, c'est des choses qui doivent être prises en compte et prises en main tous les jours. On doit laisser la parole aux gens concernés, pas juste de temps en temps répondre à une question et laisser d'autres gens prendre en main ces questions-là quand c'est juste pour faire voter. Et voilà, j'invite chacun et chacune à militer, à prendre sa place. On ne nous laissera pas parler si on ne prend pas la parole. Donc, prenons la parole, essayons de lutter un maximum pour ce qui nous motive, pour ce qui nous meut. Et voilà, l'urgence est réelle. Le réchauffement climatique est là, les discriminations sont pires qu'elles n'ont jamais été. Et voilà, faut qu'on retourne la table, toutes et tous ensemble. Et je crois que c'est important. Et surtout, ne pas laisser des gens faire du féminisme washing, du greenwashing. Voilà, les opportunistes et ceux qui protègent et ceux qui mentent à des fins électorales, on les voit aussi. Donc, parlons à leur place.
Absolument. Et c'est vraiment le bon moment pour insister là-dessus. Je vous remercie beaucoup, beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps ce samedi après-midi de venir papoter politique avec moi. C'était un véritable plaisir. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle fin de week-end. Et puis, bon courage pour la suite. Et puis, courage aussi pour tenir jusqu'à la fin de cette campagne qui est quand même pas fastoche. Et puis aussi pour maintenir la lutte et les combats au-delà de la campagne présidentielle, parce que c'est intéressant de voir que tout le monde s'intéresse à la politique tous les 5 ans, mais en fait, la politique, ça se fait aussi, et vous avez bien fait d'ailleurs toutes les 3 de le rappeler, tout le temps. Voilà. Je vous embrasse, j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à bientôt sur Popol.